Alors, on va commencer notre 30e leçon ce soir dans notre série sur l'histoire de l'Église. On va continuer dans la série La Réforme en Allemagne. Donc, on va aller un petit peu plus loin, on va aller dans le 17e et le 18e siècle. Donc, deux groupes en particulier, les piétistes qu'on a appelés et les moraves. Alors, dans notre dernière leçon, on avait vu que Martin Luther était contre l'idée d'utiliser la force pour défendre la réforme. Mais les princes protestants n'avaient pas suivi son conseil. Après la mort de Luther, les alliances politiques contractées par les princes allemands entraînèrent bientôt de néfastes conséquences. Alors, on va regarder la réforme en Allemagne au 17e et au 18e. Le Seigneur dit lui-même, « Mon royaume n'est pas de ce monde » dans l'Épître, pas l'Épître, mais l'Évangile de Jean, chapitre 18, verset 36. On lit aussi dans Jérémie, chapitre 17, verset 5 à 7, « Maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. Béni l'homme qui se confie en l'Éternel » et de qui l'Éternel est la confiance. Luther n'avait cessé de parler dans ce sens. Alors, un moment abattu par les coups violents qui lui avaient été portés, le catholicisme relevait la tête et sut habilement profiter des points faibles qu'il décelait chez ses adversaires. Alors que l'Église romaine se targue, et elle peut le faire, de l'unité de doctrine qui n'a cessé de la caractériser, les divisions se glissaient dans les rangs des réformés. Luthériens et calvinistes ne s'entendaient pas sur des points essentiels, sur la question de la scène, entre autres. Calvin et Zwingli s'opposaient avec raison à la théorie énoncée par Luther. Sur des faits de cette nature, car il y en avait d'autres, on ne pouvait aboutir à un compromis. La vérité n'en admet jamais. Les catholiques sincères, qui étaient nombreux, ne pouvaient que se rendre à l'évidence et reconnaître les égarements qui distinguaient leur Église. Ils avouaient même certaines erreurs de doctrine. Ainsi, un parti important critiquait la toute-puissance accordée à la papauté. Ces circonstances provoquèrent une tentative de réforme faite par les catholiques eux-mêmes. On trouvera quelques détails à ce sujet dans le chapitre consacré au Concile de Trente. Mais l'attachement à la tradition triompha de toutes ces tendances libérales. Loin d'être ébranlée, l'autorité pontificale sortit de l'épreuve plus vigoureuse que jamais. Encouragé par cette issue favorable, le catholicisme entreprit une offensive énergique pour chercher à regagner le terrain qu'il avait perdu, en Allemagne avant tout. Il faut dire que si les protestants étaient apparemment nombreux, cela résultait de chiffres souvent trompeurs quant à la réalité des conversions. Suivant la pratique du temps, beaucoup n'avaient embrassé la réforme que sous la pression de leurs princes. On estimait normal que le peuple pratiquait le même culte que son souverain. Il y avait néanmoins nombre d'âmes pieuses, certainement sauvées et animées du désir d'obéir aux enseignements de la parole de Dieu. Mais chez la grande masse, c'était pur formalisme. Aussi, les missionnaires catholiques remportèrent-ils de faciles succès? Les souverains protestants persistèrent dans leur aveuglement. Ils développèrent encore le cercle de leurs alliances, si bien que plus tard, ils en vinrent à solliciter des appuis étrangers, même auprès de princes catholiques, comme le roi de France, dont ils connaissaient l'animosité séculaire contre la maison d'Autriche, championne de l'Église romaine en Allemagne. Alors tout ça, ça a dégénéré de ce qu'on a appelé la guerre de 30 ans. Alors, l'empereur s'empressa d'agir de même, et c'est ainsi que l'Allemagne, divisée en deux camps, devint le théâtre d'une guerre féroce qui dura 30 ans, de 1618 à 1648. Et cette guerre féroce-là était autant religieuse que politique, dont l'étude ne rentre pas dans le cadre de cette étude. Nous dirons seulement que les protestants s'affaiblissaient eux-mêmes à cause de leur rivalité intestine. Ainsi, le fait que Frédéric V, électeur palatin et chef de leur ligue, était calviniste, empêcha les princes luthériens d'y adhérer, entre autres l'électeur de Saxe, un des plus chauds défenseurs des protestants. Triste spectacle d'une maison divisée contre elle-même, parce que ceux qui l'habitaient ne cherchaient pas ce qui pouvait les unir, à savoir les intérêts du Seigneur, et avaient donné la première place dans leurs préoccupations aux choses d'ici-bas, surtout à leur rancune personnelle. La guerre de 30 ans laissa l'Allemagne ruinée. Des provinces entières étaient transformées en déserts. Certains villages virent leur population tomber de 600 à 20 habitants. Des villes riches et prospères furent saccagées et il n'y restait plus que des monceaux de ruines. Plus de commerce, plus d'industrie. Des troupeaux de loups parcouraient les campagnes sans qu'il ne se trouvait personne pour leur donner la chasse. Le pays retomba dans une semi-barbarie et il ne se remit de cette terrible misère qu'après de très longues années. On pourrait croire que cette crise douloureuse aurait parlé aux consciences de ceux qui en furent les témoins. Lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice, lit-on dans Ésaïe, chapitre 26, verset 9. En Allemagne, il n'en fut malheureusement rien. Les formes extérieures de la piété subsistaient, il est vrai, mais on en avait tout à fait renié la puissance, comme on le lit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. On sacrifiait tout aux besoins du moment. Le souci matériel l'emportait sur n'importe quel autre. De plus en plus, les hommes cherchaient à s'en tirer par eux-mêmes, sans s'humilier devant Dieu, de la catastrophe par laquelle ils venaient de passer, et qu'ils avaient attiré sur leur tête par leur légèreté, leur insouciance de ce qui convenait à la sainteté de Dieu, sans se rappeler qu'il est le dispensateur de tous les biens, matériels aussi bien que spirituels. La raison humaine prétendait suppléer à la foi. Au lieu d'accepter qu'en toute simplicité, la vérité telle que la parole de Dieu la révèle, on prit l'habitude d'ergoter à perte de vue. Si quelqu'un ne se range pas à de saines paroles, savoir celles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement et privés de la vérité, qui estiment que la piété est une source de gain. Or, la piété avec le contentement est un grand gain, comme on peut le lire dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 3 à 6. Ces mots se réalisaient à la lettre dans l'Allemagne du 17e siècle. Ce n'était partout que des discussions théologiques à n'en pas finir et d'un caractère très aigu. Luthériens et réformés continuaient à s'entre-dévorer. Déjà, du vivant de Luther, un groupe de ses adhérents s'était tenu d'une manière particulièrement stricte à ses enseignements, tandis qu'il se formait un parti de conciliation sous l'influence de Melanchthon. Ce dernier travaillait à l'union des deux camps qui divisaient le protestantisme. Certains de ses partisans envisageaient même une entente avec les catholiques. Du vivant de Luther, ses visées restèrent à l'état embryonnaire, mais après sa mort, la guerre éclata entre les deux tendances. Les luthériens stricts se montrèrent d'une violence extrême Ils allèrent jusqu'à faire décapiter le chef du parti opposé. Chose désolante, on portait en chair les questions débattues au lieu de suivre l'exemple donné par l'apôtre Paul qui écrivait aux Galates « qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier sinon à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Galates chapitre 6, verset 14. De la sorte, on ne cherchait plus le salut des âmes ni leur édification. On les agitait en ne s'occupant que de formules creuses afin de poser des règles d'orthodoxie, règles créées par le clergé, sans tenir aucun compte des enseignements de la parole de Dieu. Celles-ci tombaient dans l'abandon le plus complet. On ne s'en inspirait plus pour trouver une direction de vie. Il va en soi que la moralité générale baissait sérieusement. À la justification par la foi avait succédé la justification par la croyance. Ces querelles intestines, sans fruit aucun, finirent par lasser les âmes pieuses. Petit à petit, on en vit revenir à la source première à laquelle avaient puisé les réformateurs. Il y eut des écarts, des exagérations dans le mouvement nouveau. Celui-ci n'en fut pas moins comme une réforme de la réformation allemande, desséchée, pétrifiée dans une connaissance aride et purement intellectuelle, sans aucun élément quelconque propre à édifier. Parmi ces chrétiens pieux et dévoués, il y a deux noms à retenir, ceux de Spinner et de Frank. Alors, la naissance, c'est la naissance de ce qu'on a appelé le mouvement du piétisme. Autrement dit, la réforme est en train de scléroser dans toutes sortes de discussions théologiques, et Dieu permet que une couple de témoins vraiment zélés les remettent à l'ordre. Tu sais, je trouve ça extraordinairement beau parce que les hommes, on dirait qu'ils ont le don de tout gâter ce qui touche. Alors, on va parler d'un des fondateurs de ce mouvement-là qu'on a appelé le piétisme. Donc, Philip Jacob Spinner, il a vécu entre 1635 et 1705. Il était originaire d'Alsace et il a été pasteur à Strasbourg puis à Francfort. C'est dans cette dernière ville que son activité prit son caractère définitif. Son premier sermon portait sur le texte bien connu « Le juste vivra de foi » ou par la foi. Romains 1, verset 17, Habacuc 2, verset 4. On crut entendre à nouveau la voix de Luther, affirmant de toute son éloquence la base même de toute la réformation, et rappelant que Jésus est la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui ait été donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. Actes 4, 11 et 12. Donc, ils sont des vérités élémentaires, mais qu'il fallait évoquer à nouveau. Spinner n'y manqua point, non seulement en ce jour-là, mais tout au long de sa carrière. Avec un courage extraordinaire, il stigmatisait les erreurs de son époque, le formalisme, la froideur d'un grand nombre, l'abandon du premier amour, le déshonneur jeté sur le nom du Seigneur et sur le témoignage chrétien. Mieux encore, il indiquait le remède à apporter à ce triste état de choses et amena ainsi un réveil spirituel merveilleux. Il comprit aussi la nécessité de construire solidement l'édifice qui s'élevait au-dessus des ruines accumulées. Pour cela, chose inouïe pour l'époque, il invita les chrétiens à se réunir entre eux, loin de toute autorité humaine, sous le regard du Seigneur et la direction du Saint-Esprit, afin de prier ensemble, de lire la parole de Dieu et de l'étudier. Beaucoup de ces chrétiens réalisèrent des progrès remarquables dans les choses de Dieu. Chez d'autres, malheureusement, l'élément humain prit le dessus, développant des notions d'étroitesse qui engendrèrent un immense orgueil spirituel. Des désordres se produisirent, et au bout de quelques années, Spinner vit lui-même la nécessité d'interrompre ses réunions qui pourtant avaient apporté de riches bénédictions. Plus tard, il reçut un appel à Dresde en qualité de prédicateur de la cour. Il y continua l'œuvre commencée à Francfort. En outre, frappé de la profonde ignorance de la population, il entreprit de l'instruire dans les éléments des connaissances humaines, puis aussi dans les vérités évangéliques. Il s'attira ainsi les sarcasmes des grands personnages au milieu desquels il se mouvait et qui disaient que l'électeur avait appelé au poste de prédicateur un petit maître d'école. L'exemple de son zèle gagna les étudiants de l'Université de Leipzig, dont quelques-uns organisèrent des réunions d'édification mutuelle comme celles qui avaient eu lieu à Francfort. Elles aboutirent aux mêmes excès et pour les mêmes causes. Les étudiants convertis se mirent à affecter le mépris de la science, à jeter au feu les livres de leur maître, à se distinguer par des excentricités de costumes et de manières. Spener, du reste, les en blâmait sévèrement. Ces bizarreries valurent à ses adhérents le nom de piétistes, sobriquet qui emporte avec soi, dans l'acceptation courante, une idée d'étroitesse et de singularité. Spener finit par tomber en disgrâce pour avoir adressé à l'électeur une lettre où il lui faisait une remontrance assez vive, parfaitement justifiée sur sa conduite. Le prince reçut d'abord cet avertissement, donné avec toute la grâce qui convenait à un chrétien, une impression des plus salutaires qui aurait pu agir sur le reste de sa carrière. Mais ses courtisans, dont la plupart détestaient Spener à cause de la franchise avec laquelle il leur reprochait leurs défauts, saisirent avec empressement ce prétexte pour le discréditer auprès du souverain. Celui-ci jura de ne plus aller entendre le pieux prédicateur et Spener fut heureux d'accepter peu après un appel qu'il reçut de Berlin où il termina sa vie. Jusqu'à la fin, il eut à subir les attaques acerbes que lui attiraient les extravagances de ses adhérents et dont, bien à tort, on le rendait responsable. Tellement il est vrai que dès ce jour où les principes humains se mêlent à la marche chrétienne, celle-ci en est affaiblie et aboutit à une chute. Malgré une constitution délicate et de fréquentes maladies, Spener fournit un travail des plus considérables. Il laissa 123 volumes. Sa correspondance, très étendue, l'obligeait à écrire plus de 1000 lettres par année. Quand on songe qu'à côté de cela, il déploya une immense activité pastorale, on reste confondu. Il ne se donnait aucun instant de repos. Il raconte qu'en 7 ans, il n'eut que 2 fois le loisir de pénétrer dans son jardin. Les courses nécessaires pour les nombreuses visites qu'il faisait lui tenaient lieu de promenade. Il consacrait chaque jour de longs moments à la prière. Sur son lit de mort, comme un de ses amis faisait allusion au bien qu'il avait répandu autour de lui, il l'interrompit par ces mots. « Je ne possède aucun mérite, aucun, sinon ceux que je trouve en Jésus-Christ par la miséricorde de Dieu. De tout le bien qu'il m'a donné d'accomplir, je ne m'attribue absolument rien. De tout cela, il ne me demande que le sentiment. Il ne me demeure que le sentiment de mes manquements. » L'autre personnage, c'est August Hermann Frank. Je voudrais juste faire une remarque sur ce personnage-là. Frank, c'est un gars qui s'est occupé des orphelins à cette époque-là. Et quand on lit la biographie de George Mueller a pris un petit peu l'exemple sur cet homme-là pour monter sa propre œuvre de s'occuper des orphelins. Moi, ce que je retiens surtout là-dedans, c'est la durée d'influence d'un homme bien consacré au Seigneur. Alors, Frank a eu une vie consacrée au Seigneur, et même après son décès, l'influence qu'il a eue, George Mueller s'est basé un petit peu sur lui pour construire sa propre œuvre, qui aujourd'hui a encore George Mueller lui-même. Alors, on voit une chose, moi, c'est le principe que je retiens là-dedans, c'est que quand une personne est vraiment consacrée au Seigneur, son œuvre devient extraordinairement influente sur son époque et bien après. Alors ça, c'est, je remarque ça. Alors, Auguste Hermann Frank a vécu entre 1663 et 1727. Il était de 30 ans plus jeune que Spinner. Doué de belles aptitudes intellectuelles, il fit de fortes études à Leipzig, où il entra en contact avec des piétistes et assista à leurs assemblées. Mais la science et la célébrité l'attiraient fort. Toutefois, le Seigneur veillait sur lui. Un jour, il avait à préparer un sermon sur Jean, chapitre 20, verset 31, qui dit « Ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle par son nom. » On l'avait invité à parler de la vraie foi, mais il fut saisi d'une angoisse indicible, car il sentait que c'était là ce qui lui manquait précisément. Il s'était même demandé à plus d'une reprise si la Bible avait vraiment le droit d'être appelée la parole de Dieu. « En cet instant solennel, raconte-t-il plus tard, je vis toute ma vie passer, se dérouler devant moi comme on considère une ville du haut d'un rocher. Mes péchés se présentèrent à mes yeux si distinctement que j'eusse pu les compter. » Et bientôt, j'en découvris la source initiale, à savoir mon incrédulité, ou plutôt ma prétendue foi qui ne servait qu'à me tromper moi-même. Il se jeta à genoux, se mit à crier à Dieu de toute la force de son âme, « Ô Dieu, révèle-toi à moi et sauve-moi! » L'exaucement ne se fit pas attendre. Une paix divine descendue dans son âme et chassa en un instant tous les doutes. Il lui semblait avoir vécu jusque-là dans un songe. J'eus dans mon cœur l'assurance de la grâce de Dieu en Christ et je pus appeler Dieu mon Père. Toute tristesse, toute inquiétude me furent ôtées. Un torrent de joie inonda mon âme. Frank professa tout d'abord à Leipzig où il donna un cours remarquable sur les épîtres de Paul. Il eut plus de 300 auditeurs et ce succès excita la jalousie. À Erfurt, comme pasteur, il ne craignit pas d'exposer l'Évangile dans toute sa simplicité, sans l'accompagner d'un commentaire philosophique selon l'habitude de ses collègues. On en prit ombrage et il dut quitter la ville dans les 48 heures, tellement il est évident que la pure vérité irrite ceux qui se complaisent dans les ténèbres de l'erreur. Peu après, sous l'influence de Spinner, Frank reçut un appel à Halle comme pasteur dans un faubourg de la ville et en même temps comme professeur de grec et de langue orientale à l'université. Tout son enseignement tendit à ramener les étudiants à la lecture de la Bible. Il exerça sur eux une influence bénie, si bien que Halle ne tarda pas à gagner la réputation de former des prédicateurs sincèrement évangéliques et entièrement dévoué à la diffusion de la vérité. Le caractère ardent de Frank le poussa dans une autre direction encore. Un legs permettait au pasteur de Halle de recevoir et d'élever un orphelin chez lui. Au lieu d'un seul pensionnaire, on lui en présenta quatre. Les quatre furent accueillis. L'année suivante, ils étaient 50. Frank dut songer à construire une maison. Il en acheta une qui avoisinait le presbytère, puis une seconde, mais cela ne suffisait pas. Tout le capital du digne ecclésiastique consistait en une grande foi, et elle ne fut pas trompée. De semaine en semaine, de mois en mois, dit-il, le Seigneur m'envoya de petits dons, mettant son pain en petits morceaux, si je puis ainsi m'exprimer, de façon à répondre à mes besoins. Grâce à ses subventions qui se succédaient avec constance, Frank vint à bout de l'édifice qui devait d'ailleurs être sans cesse agrandi par de nouvelles constructions. Sur le fronton, on voyait un aigle montant vers le soleil avec cette inscription « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force, Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. On peut le lire dans Ésaïe, chapitre 40, verset 31. À la mort de Frank, l'orphelinat comptait 134 enfants. Il avait aussi créé un grand nombre d'écoles ainsi que diverses institutions qui s'y rattachaient. Animé ainsi d'un ardent désir d'être utile à ses semblables, Frank n'oublia pas l'essentiel. Tous ses efforts tendaient à inculquer à ceux qu'il avait sous sa direction la seule chose nécessaire, la bonne part qui ne leur sera point ôtée, comme on le lit dans Luc 10, 42. Souvent aux prises avec de grosses difficultés, soit matérielles, soit morales, sa foi toute simple, enfantine presque, lui apporta un puissant secours et servit d'exemple bienfaisant à son entourage. Quoiqu'il ne fût pas exempt de certaines erreurs du piétisme strict, par exemple que l'âme pour se convertir doit préalablement passer par l'angoisse du désespoir et se trouver abandonné de Dieu, comme Christ le fut sur la croix, Frank n'en fut pas moins un fidèle et dévoué témoin du Seigneur. Soutenu par la puissance de Dieu, il tint haut et ferme ce qu'il avait appris toute sa vie, rendit un témoignage à ses convictions. Alors, on voit que Dieu utilise des hommes pour remettre les choses à l'ordre, pour redonner un mouvement de retour vers les Saintes Écritures. Mais ce qui m'a touché, on va le voir, là, c'est surtout les frères Moraves. Les frères Moraves, vous allez voir que c'est quelque chose. Alors, on a vu plus haut que le Seigneur, dans sa fidélité, avait maintenu un témoignage parmi les chrétiens de Moravie, descendants de ceux qui avaient connu Jean Hus. Alors là, on voit, moi, la leçon que je retiens aujourd'hui, c'est vraiment un homme pieux et son influence dans le temps. Et pas dans le temps juste de son époque, beaucoup longtemps après. Jean Hus avait été droit, avait demeuré fidèle, il avait créé des fidèles qui l'ont suivi, mais ces gens-là avaient beaucoup de difficultés à vivre leur foi en Moravie. Alors ils priaient et ils cherchaient un endroit où ils pourraient vivre leur foi un petit peu plus normalement. Et le Seigneur s'est servi du comte Zinzendorf, vous allez voir que c'est une histoire extraordinaire, pour ces gens-là ont pu émigrer en Allemagne, et ça a contribué à l'évangélisation de la terre d'une façon extraordinaire. Alors, c'était des descendants, ces Moraves-là, c'était des descendants qui ont des disciples de Jean Hus, ben, des disciples de Christ, mais qui avaient été surtout influencés par Jean Hus. Mais la persécution menaçait ces gens-là toujours. Ils ne pouvaient se réunir qu'en cachette, car on les contraignait à faire extérieurement profession le catholicisme en assistant aux cérémonies de l'Église officielle. Ils en souffraient cruellement dans leur conscience et résolurent de quitter le pays dès que Dieu leur montrerait un lieu propre à leur assurer un asile paisible. C'est en 1722 que le jeune comte Zinzendorf, converti depuis peu et rempli du désir de faire quelque chose pour le Seigneur, leur offrit de venir s'établir sur ses terres. Ils acceptèrent avec empressement sa proposition, dans laquelle ils voyaient une réponse à leurs instantes prières. Le domaine qui leur fut assigné, au pied de la colline de Hüttberg, ne tenda pas à se couvrir de nombreuses maisons, alignées le long de rues bien aménagées et entourées de jardins fleuris. La nouvelle ville reçut le nom de Herrhut, qui veut dire Herr en allemand, ça veut dire Seigneur. Hut, ça veut dire maison, donc ça veut dire protection du Seigneur. Le mot Herrhut. Alors, ayant perdu de bonne heure son père, homme très pieux, Zinzendorf avait été élevé dans les mêmes principes par sa grand-mère. Spener lui servait de parrain. Il n'avait pas 4 ans qu'il manifestait déjà le désir de servir le Seigneur. Ce qui faisait, a-t-il raconté, l'impression la plus profonde sur mon cœur, c'est qu'il me disait, c'est ce qu'on me disait de l'amour de mon Père pour le Sauveur crucifié. Il resta fidèle à ce souvenir, et Dieu s'en servit pour le mettre à l'abri des systèmes philosophiques qui envahissaient l'Allemagne. Il n'avait pas atteint l'âge d'homme que déjà sa position était prise. « Je résolus très fermement, dit-il, d'appliquer mon entendement à toutes les connaissances humaines, de l'aiguiser autant que possible, moi aussi, dans les questions d'ordre spirituel, d'écouter avant tout la voix de mon cœur, rendant témoignage à la vérité, et de rejeter sans merci toutes les doctrines qui semblaient contraires à cette vérité. » Il tint parole, et rejetant toutes les subtilités de la métaphysique, regardant vers le Seigneur pour recevoir son secours en vue d'une activité vraiment digne de l'Évangile, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. Comme on peut le lire dans Colossiens, chapitre 1, verset 10. En vain, plus tard, son tuteur chercha-t-il à le détourner des choses d'en haut, en l'incitant à entreprendre de longs voyages à l'étranger. Bon moyen pour le distraire, affirmait-on. Si c'est pour me rendre mondain, dit Zinzendorf, qu'on veut absolument m'envoyer en France, je déclare que ce sera du temps et de l'argent perdu. Car Dieu, dans sa bonté, maintiendra en moi le désir de ne vivre que pour son service et pour glorifier le Seigneur Jésus. Je compte sur lui pour me donner le courage et la force nécessaires. Le jeune homme dut se plier aux injonctions de ses aînés. Il se mit en route et il passa par Düsseldorf, où il vit un tableau qui représentait le Christ sur la croix. Au-dessous, on lisait cette inscription en latin. « Hoc feci pro te quod facis pro me »« Voici ce que j'ai fait pour toi et que fais-tu pour moi ?» Ça l'a touché. Zinzendorf ressentit une impression profonde à la lecture de ces mots. « Je sentis, dit-il, que je n'avais pas grand-chose à répondre à cette question. Et je suppliais le Seigneur de placer devant moi ce qu'il désirait que je fisse pour lui, puis de m'accorder la force dont j'avais besoin. » Zinzendorf profita de son séjour en France pour se mettre en rapport avec les enfants de Dieu qui s'y trouvaient, et à leur contact, il apprit beaucoup de choses qui lui avaient échappé jusque-là. Ces chrétiens venaient de passer par de cruelles persécutions. D'autres les attendaient à n'en pas douter, mais rien n'ébranlait leur foi, et ils envisageaient l'avenir avec une sérénité parfaite. De retour dans sa patrie, Zinzendorf se maria. C'est peu de temps après qu'il apprit à connaître les Moraves, le nom que l'on donnait à ses nouveaux protégés, en souvenir du pays d'où ils sortaient. Leur piété le frappa vivement, mais aussi le fait que ces pauvres gens, malgré les épreuves douloureuses qu'ils avaient traversées, n'entendaient point du tout mener dorénavant une existence oisive. Un sang généreux circulait dans leurs veines. Les persécutions qu'on leur avait infligées avaient eu cet effet extraordinaire de les détacher entièrement des choses du monde, tout en les animant d'un désir ardent de communiquer à d'autres les précieuses vérités dont ils étaient les dépositaires. Sur ce point tout particulièrement, il se rencontrait avec Zinzendorf, qui lui aussi brûlait d'amour pour les inconvertis, et cherchait un champ de travail où leur annoncer l'Évangile en Allemagne ou en pays étranger. L'occasion se présenta bientôt à eux de donner suite à leurs souhaits. Se trouvant à Copenhague, Zinzendorf y rencontra un noir de l'île de Saint-Thomas dans les Antilles. Cet homme était converti et il exprima au comte le vœu de le voir s'intéresser à l'évangélisation de sa race. Il ne connaissait pas le tempérament bouillant de celui auquel il s'adressait. Zinzendorf partit sur le champ pour Herhut et fit part de la rencontre qu'il avait faite. Sa proposition suscita un écho immédiat. Le soir même, deux hommes, profondément émus de ce qu'ils venaient d'entendre, prirent la résolution de se mettre en route aussitôt que possible. Comprenant bien cependant qu'ils ne devaient pas s'engager à la légère, mais que leur premier devoir était de présenter la chose au Seigneur, afin que ce fût lui et lui seul qui les dirigea dans leur projet. Ne pouvant dormir, ils gagnèrent la forêt et là consacrèrent plusieurs heures à la prière. Au petit jour, ils entrèrent à Herhut pour faire part de leur résolution à Zinzendorf, qui en témoigna une grande joie. Ils partirent très peu après, aucune attache de famille ni d'affaires ne les retenant. D'autres les suivirent. Il ne saurait être question ici de faire l'historique des missions moraves. Il suffira de citer un ou deux faits encore pour bien caractériser l'esprit qui animait ces chrétiens. Zinzendorf avait appris que les Esquimaux du Groenland vivaient dans l'ignorance la plus noire de tout ce qui touchait à leurs intérêts spirituels. La notion même de Dieu leur manquait totalement. Il se demanda si quelqu'un voulait se rendre dans cette terre inhospitalière. Un jour, il aborda dans une rue un certain Sorensen et lui demanda, sans autre préambule, s'il serait disposé à partir. « Me voici, envoyez-moi », fut la réponse. « Très bien », répondit le comte, « mais il faudra partir demain. » « Entendu, je partirai même aujourd'hui, si seulement j'avais des souliers. Les miens sont complètement usés. « Tu les auras », dit Zinzendorf. Et le brave homme, aussitôt chaussé de neuf, prit ses hardes et se mit en route. Dans ses vocations, il ne conviendrait pas de parler d'emballement, ni d'étourderie, ni de manque de réflexion. Depuis longtemps, ces jeunes gens attendaient l'appel du Seigneur. Ils demeuraient prêts à y répondre au premier signal, tels des sentinelles en faction. Ils ignoraient les difficultés. Ils ne voyaient que le but qu'il s'agissait d'atteindre et mettaient toute leur confiance en Dieu pour qu'il levât les obstacles. L'idée d'avoir été mis à part pour cette œuvre magnifique les faisait brûler d'un saint enthousiasme. C'est ce qui illustre l'anecdote suivante. Deux Moraves, Feder et Israël, ce dernier très petit de taille, boiteux et contrefait, partirent pour l'île de Saint-Thomas. Peu avant d'arriver à destination, leur navire fit naufrage et l'équipage les abandonna sur un récif battu par les flots. Feder eut la malencontreuse idée de chercher à gagner la côte en sautant d'un rocher à l'autre, bien qu'ils fussent rendus dangereusement glissants par les vagues qui les aspergeaient sans relâche. L'accident se produisit. Le malheureux tomba dans la mer. Un énorme paquet d'eau le saisit et le jeta si violemment contre un écueil qu'il perdit connaissance et disparut dans les flots déchaînés, sous les yeux de son compagnon, hors d'état de lui porter le moindre secours. « Et toi, demanda-t-on plus tard à Israël, qu'as-tu fait en voyant disparaître ton camarade? Je lui ai crié, « Va-t'en en paix, cher frère, » et j'ai entonné un verset de cantique. Il fallait avoir une âme forte et héroïque pour chanter dans une circonstance aussi critique. Le Seigneur seul pouvait donner à ses serviteurs la force nécessaire pour ne pas défaillir et ils devaient avoir très à cœur les intérêts de leur maître pour affronter ainsi, sans faiblir, peine, fatigue et danger de toute espèce. Ce qui aggravait beaucoup leur position, c'est qu'à cette époque, on n'avait pas la moindre idée de ce que signifie l'adaptation du missionnaire à son champ de travail, sa préparation préalable, puis les précautions hygiéniques les plus élémentaires. Aussi, pendant les premières années, les pertes en vie humaine furent terribles parce qu'on ignorait totalement les conditions de vie sous les tropiques. On s'installait, sans songer au danger, dans des contrées marécageuses où régnait la fièvre et l'on ne connaissait aucun moyen de la combattre. Chaque année, la liste des victimes s'allongeait démesurément. En 1734, on avait envoyé à l'île Sainte-Croix, aux Antilles, 18 missionnaires que 11 autres suivirent de près. Au printemps de 1735, La nouvelle arriva à Erhut de la mort de 10 d'entre eux. La consternation fut grande. Avait-on raison d'exposer ses frères de propos délibérés à de tels dangers, puisqu'on savait ce qui les menaçait? Fallait-il en laisser partir d'autres au-devant d'une mort presque certaine? Mais bientôt, l'église de Erhut se ressaisit. Le feu, qui avait risqué de s'éteindre, se ralluma de plus belle. Les brèches faites par la mort dans les rangs des missionnaires se comblèrent et l'on persévéra. L'amour du Seigneur, une confiance illimitée dans sa puissance, écartait tous les obstacles et faisait taire toutes les hésitations. En 1760, année de la mort du comte de Zinzendorf, 226 missionnaires déjà étaient partis dans 28 contrées différentes, soit en moyenne 8 missionnaires par an. Zinzendorf se rendit lui-même dans l'Amérique du Nord avec sa fille afin d'édifier les convertis et de les fortifier dans la foi. Il courut aussi de grands dangers en évangélisant les Indiens qu'ils allaient chercher dans leurs retraites les plus écartées, traversant même des montagnes abruptes et suivant les pistes de chasseurs que seuls les peaux rouges pratiquaient, le long de précipices vertigineux ou de torrents bouillonnants. Mais rien ne le troublait. Il demeurait parfaitement calme au milieu des sites les plus sauvages et dans la solitude d'épaisses forêts, presque impénétrables. Il savait que son sauveur se tenait auprès de lui et le gardait de tout mal. Alors qu'il est, l'activité missionnaire continue à distinguer les morales. Aucune autre communauté chrétienne n'a fait autant dans ce domaine. On a pu écrire ceci à leur sujet et, à très juste titre, au Groenland et au Labrador, dans les régions polaires, dans les Antilles et en Guyane, ou sur les plages brûlantes de l'Afrique et de l'Inde, les frères moraves ont toujours été à l'avant-garde des missions évangéliques et ont donné aux autres chrétiens l'exemple d'une abnégation sans réserve et du plus complet dévouement. Il ne faut pas oublier non plus le souci que prennent ces chrétiens de l'éducation de la jeunesse. Leurs écoles sont justement célèbres à cause de la qualité de l'enseignement qui s'y donne qu'à cause du soin que l'on prend d'éduquer les élèves tout en les instruisant. Toute cette éducation repose sur les enseignements de la parole de Dieu. Élève le jeune garçon selon la règle de sa voie, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point. Proverbe 22. Verset 6. Quant à Zinzendorf, il se laissa aller sur le tard à certaines exagérations qu'on a pu lui reprocher avec raison. Il le reconnut du reste si bien qu'il mit tous ses soins à prémunir ses frères contre l'exemple fâcheux qu'il leur avait donné. Il n'en fut pas moins un témoin très fidèle et convaincu de la vérité. Profondément pénétré de l'amour de Christ pour les pécheurs, il ne cessait pas de le présenter comme l'agneau de Dieu et la victime offerte pour le salut du monde. Malgré sa haute taille, son aspect imposant, il se montrait toujours humble, affable et plein d'à-propos dans sa conversation et dans ses prédications. Un jour, raconte-t-on, pendant un voyage à pied, il fut abordé par un brigand qui le somma de lui remettre sa bourse. Le voyageur obéit, mais ajouta, en frappant sur l'épaule du bandit, « Maintenant, mon cher, lorsque tu seras en face de la potence, souviens-toi que le Seigneur Jésus est mort pour tes péchés, et tu pourras encore être sauvé. » L'homme s'en alla, saisi par cette parole originale et miséricordieuse. Peu après, il accepta le salut par Christ. Merveilleux. Les moraves restent toujours étroitement attachés à la lettre de la Bible. Dieu les a tout simplement bénis dans les périodes où triomphait le rationalisme et l'incrédulité, en les employant pour faire valoir bien haut la fidélité la plus stricte aux vérités données au commencement, pour insister aussi très, très énergiquement sur la pure doctrine évangélique du salut par la foi. À ce point, ils s'apparentent étroitement avec les réformateurs, avec Luther avant tout. Alors, j'ai mis 3 applications, puis après ça, on va vous donner une petite histoire qui m'a personnellement m'a fait pleurer. Vous en jugerez par vous-même si ça vous touche ou non. On va commencer par les applications. Première application, les mouvements les plus nobles peuvent être corrompus quand on laisse les considérations humaines et politiques se mêler à la pureté des Saintes Écritures. Nous devons apprendre à se fier complètement au Seigneur et à la Bible dans les circonstances les plus difficiles. La prière sincère et fervente est également essentielle. Deuxièmement, méditons et considérons la main souveraine du Seigneur pour la direction et pour le relèvement de l'attachement à la Bible en utilisant des hommes pieux et fidèles comme Spener et Frank. Voyons aussi comment le malin utilise la jalousie pour tenter de détruire l'œuvre des hommes pieux. Troisièmement, le comte Zinzendorf et les morales furent tellement dévoués, amoureux du Seigneur et remplis d'abnégation et d'esprit de sacrifice et de courage pour l'évangélisation. Prions le Seigneur de nous donner une pareille attitude et un pareil comportement, par sa grâce et pour sa gloire. Méditons sur cette devise des frères morales. Puisse l'agneau immolé recevoir la rétribution pour ses souffrances. Alors, je vais vous dire une histoire des Moraves. Ce serait vraiment une étude en soi d'étudier juste le mouvement missionnaire des Moraves. Mais je vais vous en lire juste donner un exemple. Alors, exemple de l'amour des frères Moraves. Sur une île des Antilles, un propriétaire athée d'origine britannique disposait de 2000 à 3000 esclaves. Ce propriétaire s'était juré de ne permettre à aucun prédicateur ni à aucun membre du clergé de demeurer sur cette île, car il ne voulait plus jamais entendre parler de Dieu. Deux jeunes frères moraves d'une vingtaine d'années furent informés de cette situation et en furent affligés. Ils se vendirent aux planteurs britanniques et utilisèrent l'argent de leur vente pour payer leur propre passage sur cette île, partis pour ne plus jamais revenir, car il ne s'agissait pas d'un contrat de 4 ans. Ils s'étaient vendus les esclaves de cet homme inique. Tout ce qu'ils voulaient, c'était de pouvoir être une présence chrétienne au milieu de ces pauvres gens à qui était refusée toute forme de réconfort spirituel. Au moment du départ, les familles pleuraient, car ils savaient que jamais ils ne reverraient ces deux jeunes gens. Une fois franchie la jetée du port de Hambourg, un des jeunes gens s'empara du bras de son compagnon, le leva bien haut et cria de manière à se faire bien entendre des personnes qui les regardaient. Partir depuis le rivage, puisse l'agneau immolé recevoir la rétribution pour ses souffrances. Ce fut la dernière fois qu'on entendit parler d'eux. Depuis lors, cette phrase est devenue la devise des missions moraves. Puisse l'agneau immolé recevoir la rétribution de ses souffrances. Amen.